Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Malia.
Salut.
Comment vas-tu?
Très bien, très très bien. J'ai pas à me plaindre. Certes, on a un couvre-feu, mais ça se passe bien, j'arrive à m'entraîner parce qu'on a accès à la piscine découverte et pour le moment, tout va bien.
Bon, bah super, super. Tu es dans quel coin en ce moment, si c'est pas indiscret?
Je suis à Paris.
D'accord, ok. Et tu, bah, par curiosité, tu es dans quelle piscine? Roger Le Gall, peut-être, si c'est découvert?
Non, je suis à Lagardère, à la Croix-Cathlon.
D'accord, ok. Bah, je vois très bien où c'est. Je vois très, très bien où c'est. Tu as de la chance, c'est des super bonnes conditions d'ailleurs.
Oui, super. Ben, je suis super contente parce qu'en plus, il fait beau en ce moment. Une piscine découverte, c'est idéal pour pouvoir, on va dire, profiter de l'entraînement. Même si c'est un peu dur, ben, avec ce soleil, ça passe facile.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, moi, je t'avoue que j'ai recommencé à nager cette semaine aussi. Donc, j'étais très content et je suis passé à Roger Le Gall. Bon, je confesse, j'ai demandé une petite attestation à mon médecin de famille pour pouvoir avoir le droit de nager. Mais ça m'a fait un bien fou après quasiment 6 mois d'arrêt là. C'était compliqué. Mais du
Ouais,
coup.
je te comprends.
Mais bah écoute, je suis vraiment très 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 heureux d'être là parce que déjà je pense que tu es la sportive que ma maman admire le plus et depuis le début de cette aventure qu'est le podcast pour moi et ça va faire plus d'un an et demi, bientôt 2 ans, le temps passe si vite. Elle me parle toujours de toi et elle attend. Je pense qu'elle attend cette conversation avec impatience.
Elle aurait dû venir au podcast, assister et venir poser ses questions parce que je suis sûre qu'elles ne sont pas les mêmes que les tiennes.
C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai quand même fait ma petite, j'ai fait quand même ma petite enquête et je suis quand même allé la voir pour lui demander quelques infos. Mais en tout cas, voilà, du coup, je suis hyper content de pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à ma maman. Donc, ça va être super cool. Et en plus, tu prépares un superbe projet. On va en parler avec Théo Curin notamment et Vincent, j'ai oublié
Non,
son
c'est
nom.
Mathieu
Mathieu.
Vitefoot. Mathieu Vitefoot.
Pardon, bah écoute, pardon Mathieu, je suis désolé.
Pas de souci,
Mais en tout cas, c'est un super projet. On pourra en discuter avec grand plaisir parce que ça a l'air vraiment génial. Et les 2 autres raisons pour lesquelles je suis vraiment très très heureux, c'est que bah, la première, c'est qu'à chaque fois que je parle de toi un peu dans l'écosystème sportif, on me dit que du bien de toi. On me dit que tu es une personnalité remarquable, toujours souriante, toujours à l'écoute, toujours très dispo. Et du coup, bah, ça me fait d'autant plus plaisir. Et la dernière petite raison un peu personnelle, je te le disais juste avant, c'était que eh ben, la mère de mon fils est guyanaise et figure-toi qu'elle connaît elle connaît peu la Guyane finalement et elle m'en parle très peu et moi je suis très curieux, j'adore le mélange des cultures, j'adore découvrir d'autres façons de penser, j'adore découvrir des gens qui viennent d'univers complètement différents et j'ai très très peu d'infos du coup sur ben, tout simplement sur la Guyane donc j'aimerais vraiment t'entendre parler de la Guyane avec tes mots et pouvoir voyager un petit peu avec toi pendant cette petite heure.
Ah bah avec plaisir pour te faire voyager comme si tu y étais.
Ah bah super, super, j'ai hâte. Je prends mon billet directement pour aller en Guyane et traverser l'Atlantique. Écoute, comme je te le disais en préparation, il y a une question traditionnelle qui est pour commencer un petit peu par l'enfance et savoir qui tu étais plus jeune. C'est de savoir quel est toi ton premier souvenir de sport?
Mon premier souvenir de sport, en fait, ça reste en Guyane, parce que j'ai passé mes plus beaux souvenirs en Guyane quand j'étais jeune dans mon club USLM Pakoucine, parce qu'en fait, ce club, c'était ma deuxième famille, c'était presque ma famille plus que ma famille même, parce que je passais beaucoup plus de temps avec eux, et c'était vraiment bah, les copains de avec qui je m'entraînais et que j'avais une belle complicité, bah, j'étais plus copains avec eux que mes copains et copines que j'avais à l'école.
D'accord.
Et les super souvenirs, c'est les stages qu'on passait ensemble. En fait, on a la chance, on avait un genre de centre juste à côté qui était très petit, qui a une petite dizaine de chambres et à côté de la piscine. Et en fait, pendant les vacances scolaires, on appelait ça les stages fermés, puisqu'en fait,
D'accord.
on restait pendant toutes les vacances. On se levait très, très tôt le matin. À 5 heures, on allait nager le matin direct. On avait quoi? On n'avait même pas 10 minutes à pied pour aller à la piscine. On nageait le matin au lever du soleil. On voyait le soleil se lever. Et ensuite, on prenait le petit-déj. Les parents, il y a des parents qui étaient profs, donc ils venaient nous aider pour les cours. Ensuite, on avait une pause. On avait le déjeuner. Il y avait des gens de genre de cantine qui venaient nous apporter la nourriture du midi. L'après-midi, on avait une petite pause avant d'enchaîner sur le deuxième entraînement du soir. Donc, en fait, certes, on va dire un jeune enfant qui est dans un club, qui est dans un sport, ça peut paraître très difficile, mais en fait, c'est génial de vivre ces moments avec les copains.
Ouais.
C'est des souvenirs immenses où on faisait des blagues. Le coach, le matin, il y en a qui se levaient pas, ben, il prenait du dentifrice, il le mettait dans la main et il faisait en sorte qu'il se tape la main avec la main, avec le visage, ouais. pour qu'il prenne plein de dentifrice sur la figure en se levant, pour qu'il se lève et qu'il comprenne que ben, quand l'entraîneur dit qu'il faut se lever, qu'il est l'heure de se lever, il faut se lever. Donc, on se rappelle encore des moments où on jouait à la belote, les jeux de société, on allait faire des footings le matin très tôt ou les footings sur la plage. Il y a tellement de souvenirs et des bons souvenirs que j'ai passé là-bas avec les copains qui j'ai gardé contact hein, parce que pour moi c'est des copains qui m'ont fait grandir et en fait c'est mes meilleurs souvenirs, vraiment mes meilleurs souvenirs.
Ouais, c'était un peu une colonie de vacances saupoudrée de sport, mais avec tous les loisirs d'enfants qu'on peut connaître.
Ouais, complètement. Ouais.
Et j'ai vu que tu avais commencé la natation très tôt. Enfin, très tôt, tu devais avoir 3-4 ans, quelque chose.
Exactement. C'est ma mère qui m'a appris à nager, ouais.
C'est vrai? Ah, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui faisait que ta maman a voulu t'apprendre à nager aussitôt?
Ma mère est algérienne.
D'accord.
Et elle a eu un traumatisme quand elle était petite. Quand elle était jeune, elle a vu mon grand-père sauver mon oncle. Il allait se noyer en une noyade. Et elle a dit, c'est pas possible, je veux pas que mes enfants vivent ça. Donc, je vais les mettre à la natation pour qu'ils apprennent à nager. D'accord. Et donc, ma sœur, elle a voulu faire plein de sports. Ma mère lui dit non, il faut que tu choisisses, il faut choisir un. Elle a choisi la natation. Mais elle s'est dit quand même, pour la deuxième, je vais lui apprendre à nager. Certes, à cet âge-là, on prenait pas encore dans les clubs. Je voulais lui apprendre à nager, donc j'ai appris à nager dans la piscine de chez ma marraine. Elle me mettait sur son dos et tout, et c'est comme ça qu'elle m'a appris à nager. Et ensuite, elle m'a fait rentrer dans le club. C'est là, en fait, à 6 ans, au moment que je suis rentrée dans le club, c'est là où j'ai commencé les compétitions directes, parce que j'avais déjà commencé à avoir un bon niveau.
D'accord, ok. Ah ouais, donc tu as commencé vraiment les compétitions vraiment très jeune. Et tu as pris goût rapidement?
Ouais, j'ai pris goût rapidement parce qu'en fait, ma grande sœur, c'était un exemple pour moi. En plus, elle s'entraînait à côté avec les grands. On a 4 ans d'écart. Et, ouais. Et je voulais faire la même chose qu'elle. Je voulais tout faire pareil qu'elle. Je voulais faire les entraînements pareil qu'elle. Et en fait, je me rappelle que mon entraîneur me disait, mais j'arrêtais pas de bouder. Je me mettais à l'échelle. Je boudais parce qu'il me disait, l'entraînement est fini. Et moi, je disais non, parce que ma sœur, elle continuait à nager. Donc, pour moi, l'entraînement n'était pas fini. donc ouais, c'est... J'ai pris goût facilement en fait en copiant ma sœur. Ouais.
Ok. Et est-ce que il y avait d'autres compartiments un peu de votre vie où t'aimais bien challenger un peu ta sœur ou t'aimais bien faire aussi bien qu'elle? Non, c'était vraiment juste dans le sport.
Ouais, ça restait dans le sport complètement. Ouais.
Et quelle relation t'as fait d'ailleurs avec tes frères et sœurs, parce que je crois que Mehdi aussi a été nageur pro, hein, c'est ça?
Mais il est toujours.
Il est toujours.
Il va tenter sa qualif au mois de juin là pour Tokyo. Il s'est fait opérer il y a un an, donc il va quand même essayer de faire Tokyo. Il a eu la chance où ça a été reporté, mais oui, très très bonne relation. En fait, on est très famille. On est très famille où on a besoin de toujours avoir ce contact avec la famille, que ce soit la famille proche ou la famille un peu éloignée. Et Mehdi, on a certes 10 ans d'écart, mais je continue à le conseiller, à le materner un peu et à lui donner des claques, on va dire, quand il le faut. Donc voilà, c'est ouais, ça reste, on reste proche, ouais, très proche.
Ok, d'accord, ouais. Ouais, vous avez tous un rôle un petit peu de très fraternel les uns avec les autres, de conseiller. Ouais. Ok. Mais c'est hyper touchant, ouais. C'est en tout cas, ça se ressent que vous êtes assez soudés et je trouve que ça transparaît un peu quand on vous entend ou quand on vous voit communiquer. Et, j'imagine, ça lui met pas la pression, tu penses, d'avoir une grande sœur qui a presque tout gagné, tu vois, dans les bassins.
Non, justement, ça lui met pas assez, j'ai l'impression. Parce que tout le monde lui dit et il a l'air de... que non. Ça lui passe au-dessus. Mais parce qu'il faut dire, c'est une autre génération, certes. Et c'est un garçon, c'est pas une fille. On n'a pas. Parce que moi, encore, les filles avec qui, contre qui je nageais, il y en a certaines qui nagent encore. Donc, ouais. Donc, lui, c'est une nouvelle génération chez les mecs. J'ai pas l'impression que non. Je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui se mette la pression pour ça. Parce qu'on lui dit, ta sœur, elle a tout gagné et toi, pas encore, quoi.
Ouais, bah après, ça peut aussi se comprendre qu'il a envie de vivre son propre chemin et,
oui,
et qu'il n'a pas envie d'avoir la comparaison. Je sais que c'est, ça doit être assez, pas forcément fatigant, mais à la longue, des fois, ça, tu sais, le message passe plus, quoi, tu vois, c'est, quoi, à force qu'on te le dise, c'est, mais en tout cas, c'est, ça fait plaisir à entendre que vous êtes toujours proche et que tu peux toujours un petit peu l'accompagner, tu vois, et si c'est fait avec bienveillance, et j'en doute pas une seule seconde que ça soit le cas. Ouais, ça peut que le tirer vers le haut. Donc, on croise les doigts pour lui, pour Tokyo, tous ensemble. Tu vois, je touche du bois, là. Je suis face à une grosse table en bois, je touche du bois pour lui. Super. Et à l'école, t'étais quel type de... Je saute un peu de sujet, mais ouais, à l'école, t'étais quel type d'élève? Est-ce que... Moi, je te vois très bon élève et très bout en train, mais peut-être que je me trompe.
Alors, oui, ça résume un peu ce que j'étais. C'est que en fait j'ai eu des difficultés à l'école. Je prenais des cours particuliers, même en plus le soir, parce que j'ai eu du mal à l'école. Et le fait, c'est pas parce que j'avais du mal que je me challengeais pas. Je me dis c'est pas possible, il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse en sorte au moins d'avoir la moyenne. J'étais une battante même à l'école en fait. Je faisais en sorte de pouvoir accrocher les meilleurs ou même la moyenne pour que je puisse me dire je suis fière de moi, j'ai réussi à avoir une bonne note ou quoi que ce soit. Ouais, c'est j'étais pas du genre à papoter, ou j'étais pas devant. Par contre, j'étais rarement devant. Si j'étais devant, j'étais pas forcément devant premier rang. Je me tais peut-être au deuxième rang ou au troisième rang, et sinon sur les côtés.
Ouais, ok, un peu à l'écart.
Non, pas forcément à l'écart, mais j'aimais bien parce que des fois, c'était par rapport aux autres camarades. Tu faisais en sorte de dire, celui-là, il va parler pendant tout le cours, je vais pas suivre, ou voilà. Et en fait, c'est un peu ça. Donc, tu te mettais par rapport aux autres, à certains, où tu te dis, bon, avec un groupe de copines ou de copains, tu te mets dans ce coin, au moins, ça va être plus facile de pouvoir suivre. Au collège, c'était un peu ça parce que, en fait, j'écrivais vite et je prenais vraiment tous les cours, et tout le monde, presque la plupart, me demandait mes cours. j'étais une battante pour en tout cas en primaire, j'étais une battante pour au moins avoir la moyenne, parce que je trouvais que c'était une façon aussi de montrer que je suis capable de.
Ouais, ok. Mais tu sais qu'on aurait peut-être été amis, parce que moi j'avais un talent à l'école pour être très ami avec ceux qui prenaient beaucoup de notes, celles et ceux qui prenaient. Et comme ça, moi je pouvais ne pas en prendre. Et au début de l'année.
Mais qu'est-ce que tu faisais si tu prenais pas de notes en cours?
Ah mais je dessinais, je regardais par la fenêtre, je parlais, je faisais des blagues. J'étais un peu un élève perturbateur, hein, vraiment. Et alors pas tout le temps. J'avais beaucoup de mal à canaliser mon énergie, et j'avais envie de faire du sport en permanence. J'avais envie d'être dehors en permanence, et rester 8 heures en cours, c'était très dur pour moi. Et j'arrivais bien à le faire le soir face à mes devoirs, quand il faisait un peu nuit. Là, je me sentais beaucoup mieux. Et du coup, au début de chaque année, je faisais un petit mercato des meilleures copies, des meilleures prises de notes. Et je regardais celles et ceux qui me correspondaient le plus, et je me débrouillais pour devenir leur meilleur copain. Et je ramenais les croissants, je ramenais les bonbons et tout.
Ah oui, t'es super copain. Hein. Toi, tu savais négocier, en fait. T'es un commercial.
Un petit peu, ouais. J'avais déjà un peu ça dans le sang. Et du coup, tu aurais certainement fait partie de ma liste de super copains à qui je peux faire confiance et à qui j'aurais offert plein de croissants. Alors, je sais pas si les croissants et les bonbons auraient beaucoup aidé pour ta carrière.
Non, mais... moi, ça m'aurait pas. Et souvent, les croissants, oui, peut-être après un entraînement du matin quand j'étais au collège. Mais les bonbons, je sais pas, j'étais pas très bonbon.
Ouais, bah j'aurais creusé hein, si tu m'aurais dit du salé. J'aurais fait la cuisine. J'aurais fait la gamelle du midi, il n'y a pas de problème. Et au collège, tu t'entraînais déjà plusieurs heures par jour.
Oui, c'était déjà je m'entraînais déjà deux fois par jour. Ouais, ah, je oui. m'entraînais deux fois par jour. Je m'entraînais à 5h30 et fin d'après-midi à 16h30 avec le reste du groupe. Ouais.
Ok, ah ouais, c'est dingue. Bah, tu sais, j'en parlais un petit peu avec Aurélie Muller que j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast et c'était un super épisode et on a eu un petit passage sur effectivement la quantité d'entraînement qu'il fallait fournir en natation. Mmh. Et d'autant plus quand tu fais de l'eau libre et quand tu fais de la longue distance et on pourra en reparler justement avec ton nouveau défi. Ça fait pas beaucoup avec le recul, tu trouves pas que ça fait beaucoup pour je sais pas, pour une jeune adolescente déjà, de devoir faire plusieurs entraînements par jour et notamment parce que c'est des entraînements qui, énergétiquement, tu vois, qui sont très énergivores, quoi. C'est pas des petits entraînements, tu vois,
de l'extérieur, ça peut paraître beaucoup. Ouais. Il faut savoir que les filles, on perce tôt, en fait. On perce beaucoup plus tôt que les garçons et moi, pourquoi on a mis ce genre d'entraînement en place, ce programme, c'est parce que j'avais déjà du retard, moi, par rapport à la métropole, puisque je m'entraînais en Guyane à l'époque. Et, ouais. Et donc, le seul moyen pour que je puisse rattraper un peu ce retard, c'est de m'entraîner avant d'aller au collège le matin. Et le collège commence à 7h30, donc j'avais pas trop le choix.
Ouais.
Donc, mais, ouais, ça peut paraître beaucoup, ça faisait peur aussi, hein. Même en Guyane, mes voisins ou les copains qui étaient dans la même classe que moi, voilà. Et ils trouvaient que ça faisait beaucoup, mais franchement, je regrette pas. Je regrette vraiment pas. Parce que ça a été une superbe expérience et je vais te dire, c'est même ce qui m'a permis de pouvoir tenir le coup quand je suis arrivée à l'INSEP. Parce que, quand je suis arrivée à l'INSEP, personne ne pensait que je m'entraînais déjà deux fois par jour et que je me levais tôt le matin pour pouvoir aller m'entraîner. Et que je connaissais déjà la quantité d'entraînement, le kilométrage que je pouvais tenir. Alors que quand je suis arrivée à l'INSEP, c'était boile dans le nez pour moi. C'est juste la quantité de muscu qui a changé parce que je faisais pas beaucoup de muscu à l'époque. Le kilométrage, il a pris un peu plus d'intensité forcément parce que je m'entraînais plus, j'avais à peu près un peu plus de 10 entraînements dans la semaine, mais la quantité presque, voilà, ça passait crème comme on dit.
Ok, franchement, chapeau parce que je sais à quel point pour avoir fait pas mal de triathlon, je sais à quel point s'entraîner en natation, il faut avaler les kilomètres, il faut avaler les longueurs et j'imagine que jeune, c'est quand t'as tous tes copains qui vont, alors je sais pas quels étaient les loisirs de tes amis au collège, tu vois, mais quand t'as tous les copains qui partent aller faire, je sais pas, du skateboard, des goûters, ou aller à la plage.
Ça ne me dérangeait pas, moi.
C'est vrai?
Non, ouais.
Tu l'as jamais vu comme un sacrifice ou comme une contrainte?
Non, franchement, mais pas du tout. J'ai des copains, des copines. Alors, les copains, je sais même pas si peut-être ils faisaient des goûters, je sais pas, je sais même pas, pour te dire. J'étais même pas. C'était pas le truc qui me faisait kiffer. Moi, tu vois, c'est les trucs qui me faisaient kiffer, c'était mes stages. Les stages avec les copains parce qu'on restait une semaine entière. Et en plus, moi, j'avais la chance, je voyageais déjà à cet âge-là. Je voyageais dans les Antilles de la Caraïbe. Donc, je venais en métropole pour mes compétitions. Donc, j'avais ce luxe. Donc, ça, c'est pas ce qui me faisait kiffer, moi, les goûters ou aller faire du skate ou aller faire, je sais pas, balader, je sais pas où. Non, pas du tout. Franchement, mais pas du tout.
Mais j'ai l'impression, en t'écoutant, dis-moi si je me trompe, mais que t'avais assez tôt la conscience du professionnalisme ou de... À la fois le plaisir, je pense, tu vois. Quand on entend, c'est évident que tu prenais déjà énormément de plaisir à faire tout ça. Mais j'ai l'impression qu'aussi, vachement tôt, tu t'es dit, enfin, t'as professionnalisé ta pratique de la natation, quoi. Ça avait l'air très carré, très jeune.
Ouais, complètement. Je pense que dès le CP presque, hein, parce que j'allais à l'école la journée, je restais à la cantine. Et le soir, j'allais à l'entraînement. Voilà. Ouais. C'était ça, du lundi au vendredi. Après, quand je suis arrivée au collège, bah, c'est là qu'on a mis la classe sport-études où je devais absolument m'entraîner deux fois par jour. Donc, je m'entraînais le matin à 5h30, j'allais au collège, je rentrais chez moi manger, je repartais au collège et je m'entraînais le soir. Donc, ouais, ça a été vraiment très tôt où ça a été vraiment pris au sérieux quand quand j'ai fait la sixième. Je m'entraînais à 5h30. Mais c'est vrai que, en fait, mon monde, en fait, était tourné entre la natation et l'école.
Ouais. Ah, ouais. C'est génial. Enfin, moi, je suis vraiment très admiratif de tout ça parce que j'aurais jamais réussi à tenir le rythme. Je pense qu'il y avait. Enfin, j'ai fait sport études tennis et je prenais énormément de plaisir à aller 2 heures, 3 heures sur les cours tous les jours. Et j'avais besoin aussi de faire autre chose et de m'amuser et de participer aux activités qu'avaient mes copains qui étaient peut-être un peu moins sérieuses, si on peut dire ça. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que aussi jeune, tu avais l'intention d'en faire une carrière pro ou c'était juste un plaisir et t'y pensais pas trop? Est-ce que, je sais pas, tu avais des sources d'inspiration? Alors, en fait, je suis curieux de savoir aussi tes sources d'inspiration parce que moi j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois. Donc, si tu connais l'INSEP.
Oui, ouais, c'est à côté.
Bah, littéralement, à vol d'oiseau, je suis à 1 km. Il suffisait de faire le tour du lac et en vélo, j'y étais. Et du coup, bah, très jeune, je faisais mes footings en passant devant l'INSEP, avoir toutes ces médailles, avoir tous ces portraits, te voir toi aussi en photo autour sur les super portraits qu'il y a tout autour de l'INSEP. Et du coup, l'envie d'être un champion, moi, elle m'est venue très jeune, quoi. J'avais envie vraiment d'en faire mon métier et d'en faire tout ça. Et je me demande, tu vois, je veux pas du tout être condescendant, tu vois, mais je me demande, est-ce que, tu vois, en Guyane, il y a aussi, tu vois, cet esprit un peu de rôle modèle ou de source d'inspiration qui fait que tu as envie de devenir un sportif de haut niveau ou une sportive de haut niveau et que tu as envie de faire une carrière, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu rapidement, tu vois, et est-ce que tu saurais dire, toi, comment c'est venu chez toi?
Une carrière, c'est venu bien plus tard, hein. Jamais eu, en fait, on est certes éloigné, mais j'avais pas ce côté où j'avais quelqu'un que j'admirais, je voulais faire pareil.
Ouais.
Non. Je kiffais ce que je faisais, j'aimais ce que je faisais. Ça s'arrêtait là. Et puis, je me dis, je vais voir où ça me mène, c'est tout. Mais j'avais vraiment pas du tout en tête de devenir champion ou championne, quoi. C'est pas du tout, mais pas du tout. J'étais dans le kiff des jeunes ados. J'aimais bien les boys bands. Voilà, c'était à l'époque. Je regardais les jeux tous les 4 ans et je m'intéressais à l'athlétisme et le judo. C'était Marie-Jo et David Douillet.
Ouais.
C'est tout. Voilà, ça s'arrêtait là. Et je regardais les Américains tout rafler. Mais c'était le kiff de regarder les jeux tous les 4 ans. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Après, les jeux, c'était fini. Et je retournais à mon quotidien. Ouais, j'avais pas du tout cette intention de me dire, Maya, je veux devenir une championne, quoi.
Ouais. Ok. Et le jour où on te propose, du coup, de rejoindre l'INSEP, ça commence à prendre forme. Parce que ça, c'est un gros cap quand même.
Avant que je rentre à l'INSEP, c'est que d'abord, mon président de club, Michel Liron, qui n'est plus là, mais qui est un ancien pharmacien, qui a dit, je veux pas que tu partes très tôt, je vais faire en sorte de faire venir les entraîneurs pour toi.
D'accord.
Donc, il faisait venir des entraîneurs en Guyane pour moi. Donc, je suis partie à l'âge de 18 ans. Donc, le dernier entraîneur qui était venu, c'était Alain Iacono, qui était le père d'un champion de France du 1500 mètres nage libre. Donc, il connaissait vraiment le haut niveau. Il avait fait venir d'autres entraîneurs pour pouvoir voir un peu comment faire pour arranger ma technique ou quoi que ce soit. Et il avait fait venir un entraîneur pour la respiration sur les côtés. Et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour moi pour pas que je sois déracinée, en fait, de la famille. Et la dernière année, six mois avant qu'il parte, Alain, parce qu'il est parti rejoindre le Canada, j'ai eu la chance de faire 2 podiums au championnat de France.
Ouais.
Et comme Alain partait, c'est là que mon président de club, il a dit, Malia, tu peux plus rester. Il y a plus rien pour toi en Guyane. Tu ne peux pas rester, que ce soit pour, si tu veux continuer à faire du haut niveau en natation, si tu veux aller au haut niveau, tu peux pas rester en Guyane. Il faut que tu partes. Donc il a dit, tu pars en vacances là, tu vas en région parisienne à Paris, et après tu vas au Maroc, mais quand tu vas à Paris, va voir l'INSEP. Donc on avait pris rendez-vous avec ma mère pour aller regarder qu'est-ce que l'INSEP. Je connaissais même pas l'INSEP, hein. Moi ça n'existait pas, je connaissais vraiment pas. Okay. Donc on a été voir, on avait pris rendez-vous avec le conseiller d'orientation qui était l'entraîneur de Laura Flessel et qui m'a un peu aiguillé, qui m'a beaucoup aidé, hein, pendant toute ma période où j'étais à l'INSEP. Il a toujours été là pour me soutenir puisqu'il savait que j'avais pas de famille en fait sur Paris en métropole, donc voilà, il m'a soutenu et ma mère m'a dit c'est simple, c'est toi qui décides si tu as envie d'y aller ou tu dis non, je rentre en Guyane, je reste en Guyane et je fais tout en Guyane. Et j'ai pris ma décision quand on est rentré en Guyane. Début septembre, mi-septembre, j'ai dit bon, ben, en fait, maman, on s'est décidé, je pars. Donc voilà, billet d'avion pris, je fais mes valises, je quitte la Guyane, je quitte ma famille. Mais ma mère vient avec moi un mois quand même pour voir. Ouais. Pour voir comment ça se passe, le déracinement ne fait pas mal. Et en fait, franchement, elle m'a même pas vue. Elle me voyait que le soir parce que mes journées étaient bien remplies. Le 8 heures, t'as cours. Ensuite, à 11 heures, t'as entraînement. Ensuite, tu vas manger. À 14 heures, tu reprends les cours. À 16 heures, tu finis les cours et tu reprends l'entraînement. Je finis ici à 20h15. Donc, j'avais vraiment pas le temps de la voir, mais j'ai eu un très très bien accueilli par mes camarades avec qui je m'entraînais à l'INSEP, puisqu'on n'est pas du même club, on est tous des clubs différents et en fait on est dans un pôle. Mais voilà, ça a été vraiment par étape. Rentrer à l'INSEP, ça a été par étape et ça a été mûrement réfléchi avant de pouvoir aller à l'INSEP. Okay. Parce qu'il fallait aussi être préparé, savoir si j'étais prête aussi à me déraciner.
Ok. Et bah en tout cas, bon déjà ça fait plaisir à entendre parce que je sais que j'avais eu des échanges avec Enzo Lefort et avec Dimitri Bascou, qui sont Guadeloupéens et Martiniquais respectivement, il me semble, que je dise pas de bêtises. Et ça n'avait pas été aussi simple, tu vois, et ça a été plus abrupt, je pense, comme transition. Ouais. Après, c'est peut-être des garçons, peut-être que aussi dans leur famille, ils avaient des exemples de gens qui étaient déjà allés en métropole aussi, et du coup, ils ont un peu plus tenté le coup de manière un peu plus abrupte, peut-être. Mais, ouais. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas, parce que j'ai l'impression que ça s'est bien passé, même si
oui.
Ça a été, tu vois, on sent que c'est un choix qui est quand même lourd à prendre et qui n'est pas facile pour une famille et tout. En tout cas, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, que ça s'est passé en douceur.
Oui, exactement, ça s'est passé en douceur, mais je faisais déjà des allers-retours, je faisais déjà deux ou trois allers-retours en métropole pour des compétitions, ouais. Donc je connaissais le froid, c'est pas ce qui me faisait peur. Je connaissais un peu la métropole dans différentes piscines, j'allais faire des compétitions. Voilà, oui, on n'a pas été brusque avec moi, c'est vraiment faire en sorte que tout marche, que je ne sois pas déracinée pour rien et que tous ces efforts ne soient faits intelligemment, en fait.
Ok. Et c'est un conseil que tu donnes, d'ailleurs, peut-être. Je sais que t'es très attachée à la Guyane et qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui sont originaires de la Guyane et qui viennent, tu vois, pour leur parcours sportif, effectivement, rejoindre la métropole. Est-ce que... tu vois, c'est un conseil que tu leur donnes effectivement d'y aller progressivement, d'y aller en douceur. Est-ce que c'est un excellent retour d'expérience, je trouve, tu vois, celui que tu as et la façon dont ça s'est fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de reproduire à des sportifs un peu plus jeunes?
Complètement, parce qu'il y en a beaucoup qui, eux, le premier frein, c'est le froid pour eux.
Ah bon, j'aurais dit que c'était les Français.
Mais ça peut être la cuisine aussi, des
les
fois.
Parisiens, les
parce
Parisiens.
Parce que la cuisine n'est pas pareille. Hein. Chez nous,
ouais,
elle est beaucoup plus épicée. Mais ouais, il y en a, c'est beaucoup le froid. Et à chaque fois, ils disent, ah non, je peux pas le froid. Ouais, mais tu restes pas dehors. T'as de la chance, t'as un toit, t'as une maison. Tu nages pas dehors non plus, ou tu t'entraînes pas dehors comme les athlètes. Hein. Nous, on a de la chance encore au... On a des piscines, la plupart du temps, c'est dans des piscines couvertes. Donc, oui, il faut forcément aller petit à petit. Il faut jamais aller brusquement, parce que même le nageur, même s'il va faire 1 ou 2 ans, et après, il va dire non, c'est bon, je rentre. Ouais. J'ai pas progressé ou quoi que ce soit, ou j'ai plus envie de rester. Ouais, il faut vraiment aller petit à petit. Ouais. Il faut le préparer, ça, c'est sûr. Ouais. Il faut le préparer physiquement et mentalement avant de faire l'effort de le déraciner, comme on dit. Mais ouais, il faut vraiment le préparer, c'est important. C'est vraiment important.
Et il y a des gens qui t'ont pris un peu sous leur aile quand t'es arrivé du coup en métropole et à l'INSEP.
Je dirais c'est toute l'équipe qui ouais. on a tous été pris sous les ailes des plus grands. Et moi, j'ai eu la chance où j'ai une nageuse réunionnaise d'origine de la Réunion, mais qui venait de Foremeux. Elle avait déjà fait pas mal d'années à Foremeux. Comme elle avait sa famille à la Réunion, elle y allait pas souvent comme moi. Donc, on retournait chez nous 2 fois par an, si c'était Noël ou l'été. Et donc, tout le temps. Et le week-end, en fait, c'est ça aussi. Parce que l'INSEP vit très bien la semaine. La semaine, du lundi au vendredi, il y a du monde, c'est blindé. Il y a toujours
c'est vivant.
Tout le monde s'entraîne et tout. Mais il y a des internes qui rentrent pas chez eux. Nous, on rentrait pas chez nous. Moi, je rentrais pas en Guyane tous les week-ends. Donc on restait ensemble. S'il fallait aller au cinéma ensemble, on allait faire du shopping ensemble, on allait faire quelques petites courses ensemble. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passait. On avait de la chance où on était toutes les deux. Donc on passait beaucoup plus de temps aussi à échanger, que ce soit par rapport à nous, le fait de elle venait de la Réunion, moi de la Guyane, on parlait un peu de tout, quoi. C'était un peu ça, mais j'ai eu la chance où à chaque étape tout s'est très bien passé avec les camarades d'entraînement, où on a toujours été très bien accueillis et même guidés, quoi. C'est on fait un sport ingrat. On voit pas pourquoi on te mettrait des bâtons dans les roues. Tu en chies, j'en chie, on en chie tous les deux. Pourquoi on va se crier dessus, ou on va pas s'aimer? Alors les deux, on fait le même sport, quoi. On s'entraîne ensemble. Quand c'est difficile pour toi, ben je t'encourage. Quand c'est difficile pour moi, tu m'encourages. En fait, c'est surtout ça. On sait qu'on fait un sport ingrat. Donc tout le monde s'encourage et tout le monde s'entraîne, en fait.
Ok. Ok, ouais, je vois. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est un sport ingrat?
Ben, le sport ingrat, c'est que nous, on doit tout le temps être dans l'eau. Toujours c'est un sport. On est comme des astronautes, en fait. On est en apesanteur, en fait, dans l'eau.
Ouais.
On a toujours besoin d'être en contact avec l'eau pour les niveaux sensations. Dès que tu tombes malade un jour, il te faut 3 jours pour revenir au même niveau qu'avant que tu tombes malade.
Ouais.
Donc voilà, c'est en fait, quand tu tombes malade, ton entraîneur, il te regarde et il te dit bah dégage, quoi. Ne reste pas là, dégage. Ne reste pas là, dégage, tu me sers à rien, quoi, tu vas pas t'entraîner. Donc voilà, il te regarde avec les gros yeux en te disant c'est très ingrat, c'est vraiment très ingrat, c'est difficile, c'est un sport où tu as besoin de t'entraîner beaucoup aussi, même quand tu es sprinteuse, j'avais besoin de m'entraîner beaucoup.
Ouais,
voilà, on fait série, demi-finale, finale, et il faut absolument pouvoir gérer toutes les étapes jusqu'avant que tu montes sur un podium, et encore si tu montes sur un podium. Il faut savoir gérer ton stress, comme la plupart des sports, et voilà, si tu te rates, t'es tout seul dans ton couloir, c'est à toi de t'en vouloir, quoi. Ouais, c'est très ingrat.
Ouais, ok. Et tu vois, tu vois, t'as parlé d'être malade. Est-ce que tu penses que, tu vois, ça fait partie des aptitudes un peu physiques nécessaires pour être un bon nageur? Tu vois, moi, je te raconte ma petite histoire perso. J'ai découvert il y a 2 ans et demi maintenant la douche froide. Et comment je suis tombé dessus, c'était parce que effectivement quand j'étais plus jeune, j'attrapais tous les petits virus qui traînaient. Tu vois, à chaque saison, tu avais la petite grippe, la petite bronchite, la petite gastro, la petite angine. J'avais tout. À chaque trimestre, tu vois, je savais que j'avais une semaine au lit à cause du virus qui était un peu à la mode en ce moment. Et un jour, on m'a commencé à me parler de la douche froide en me disant, si tu commences à le faire, tu tomberas plus jamais malade. Au début, j'étais un peu sceptique. Et aujourd'hui, après 2 ans et demi, je continue toujours. Minimum 3 minutes de douche gelée tous les matins. Et je ne suis plus jamais tombé malade. Mais vraiment plus jamais. Si j'ai eu une toute petite angine cet hiver, tu vois, et encore, ça m'a pris même pas 2 jours, et encore, je pouvais travailler, j'étais très bien, et je me suis même entraîné alors que j'étais censé être malade. Et du coup, ma question un peu, c'était, comment est-ce qu'on s'entraîne à être moins malade, puisqu'apparemment, c'est quand même un frein pour toi.
Du coup,
ça fait partie des aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir tenir la distance, quoi, pour pouvoir tenir sur la longévité.
Ben, c'est surtout quand on dit souvent, surtout vous sortez de la piscine, que vous sortez en plein hiver, couvrez-vous bien, quoi. Il y en a, c'est en t-shirt ou en veste. Non, c'est bonnet, gants, écharpe et tout. Sortez couvert. Voilà, c'est un peu ça. Mais non, il n'y a pas le côté où tu tombes moins malade. Non, il n'y a pas.
Ok, bon, je t'ai donné mon tips. Essayera si tu veux. Je sais qu'il y a peu de courageux qui s'y lancent.
Mais nous, on fait des bains froids avec Théo et Mathieu.
Justement, j'allais y venir parce qu'on a parlé, on a parlé plusieurs fois du froid. On a parlé effectivement de venir en métropole. On a parlé du bassin. Là, du coup, vous êtes lancé un défi complètement dingue. Je vais te laisser le présenter. J'aurais pu le présenter avec mes mots, mais moi, en tout cas, je veux bien
t'écouter à savoir ce que tu as compris dans le défi. Et d'accord. Puis après, je te rajouterai des choses ou pas.
Vas-y. Eh ben, écoute, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est 3 copains un peu fous qui ont décidé de traverser un des plus grands lacs du monde et un des lacs les plus hauts du monde qui s'appelle le Titicaca, qui est entre la Bolivie et le Pérou. Et que vous avez décidé de le traverser du nord au sud, soit une distance de 122 kilomètres. Et comme c'est un lac très haut, c'est un lac très froid, et que vous allez le faire en complète autonomie, tous les trois. Donc, vous allez tirer un radeau avec des embarcations gonflables pour dormir dessus. Et que c'est un défi qui va vous prendre sûrement une bonne dizaine de jours. Vous êtes en autonomie, vous allez devoir dormir du coup sur l'eau, et que vous avez prévu, je dirais minimum 10 heures de nage par jour dans une eau à 12 degrés environ. Et vous allez le faire en novembre, 2021. Et je vous trouve complètement dingue. et je trouve ce défi génial. Et je me demande comment 3 personnalités aussi folles et aussi engagées en fait se sont rencontrées. Et moi, je serais très curieux de connaître un peu la genèse du projet et de savoir d'où tout ceci est parti. Mais avant ça, est-ce que j'ai bien pitché votre aventure?
Pas mal. C'est vraiment pas mal. Je te mettrai 8,5/10.
Ah, 8,5/10. Ok, pour un mauvais élève,
je vais te dire pourquoi, parce que tu pouvais pas savoir. Il y a eu des changements depuis, mais je vais te dire. Donc, sur la plupart des trucs, oui. C'est le lac Titicaca, très très bien. Le lac le plus haut du monde, le lac navigable le plus haut du monde, exact. On sera en totale autonomie, comme tu as dit. On a décidé de faire du sud au nord cette fois-ci, pas du nord au sud.
D'accord.
On a forcément, parce que il y a tout un travail qui est fait avec des ingénieurs et tout ça de nos partenaires, c'est que on regarde aussi les vents, de quelle direction ils vont aussi, parce que on va tracter un radeau sur lequel on va dormir et manger. Ce radeau, il va faire à peu près 200 kilos maximum, sur lequel on va mettre toute notre nourriture et toutes nos affaires techniques pour pouvoir nous réchauffer après avoir nagé. Il sera pas gonflable, il va dire c'est comme un genre de petit catamaran qui doit faire, je sais pas s'il fait 5 mètres, ouais, il doit peut-être faire 5 mètres de long, sur lequel on aura, on va dire, une tente, sur laquelle, dans laquelle on va dormir et sur là où on va chauffer notre nourriture, enfin, chauffer notre nourriture. La nourriture, c'est la nourriture lyophilisée.
Ouais.
Pour ceux qui connaissent pas la nourriture lyophilisée, c'est la nourriture où on a séché, on a enlevé l'humidité, l'eau, on a enlevé l'eau, donc c'est tout sec et il suffit de faire chauffer de l'eau, la fermer 5 minutes, juste le sachet 5 minutes, et ensuite t'as une nourriture normale en fait. Mmh. Et certes, tu as pas un plat étoilé, t'as pas non plus, mais c'est forcément au regard, quand tu regardes, c'est pas très joli, mais quand tu manges, ça te fait du bien après.
après 5 heures dans une eau à 12 degrés, je veux bien croire que c'est bien meilleur que celui-là.
Il y a un changement, c'est que on fait toujours 122 kilomètres, certes, mais on va pas pouvoir nager tous les trois en même temps. Ça c'est sûr. Moi je le savais depuis le début parce que pour moi c'était logique parce que nager 122 tous les trois, on va mettre plus de 10 jours. Hein. Ouais, c'est comme ça. Et c'est que aussi, alors c'était, il y avait autre chose encore, j'ai oublié. Ah oui, on va tourner. On s'est dit qu'on va quand même commencer à nager à trois, et puis on va dire le début du deuxième jour, ça va être par deux, forcément par deux. Parce que il faut que celui qui est sur le bateau puisse guider les deux autres, parce qu'on on va essayer de se guider soit à la boussole, soit avec un point GPS. On va essayer avec des points GPS, voir comment on peut faire. Forcément, on va peut-être nager plus de 122 kilomètres. On va pas forcément nager tout droit.
Oui, ça m'étonnerait que d'ailleurs vous fassiez 122 kilomètres pile poil. Ouais.
Ouais, exactement.
Et du courant, je m'en rends pas compte. T'as mentionné le vent, mais
non, je crois qu'il y a. On va vérifier, mais je crois qu'il y a pas de courant. Non, il y a pas de courant. Non, il y a pas de courant. Et oui, c'est les départs au mois de novembre 2021. Et cette idée folle, elle est venue de Théo. De Théo, ouais. qui est un peu le foufou du groupe. Donc Théo, ouais, en fait,
un foufou parmi les foufous. Hein,
hein?
Je dis un foufou parmi les foufous parce que
pour accepter.
Il faut quand même le suivre. Il est peut-être un plus fou parce que c'est lui qui a eu l'idée, mais il faut quand même le suivre.
Ouais, mais franchement, je suis super contente d'avoir dit oui parce que surtout en cette période, ça fait du bien. De pouvoir se dire on peut faire du sport et on travaille sur des trucs que je pense que j'aurais jamais pu travailler dans ma vie. Je te raconterai. Et Théo, pendant le premier confinement, ça fait plusieurs années, ils ont changé ses classifications pour les Paralympiques et même pour des compétitions, quoi. Ils ont complètement changé ses classifications. Ils se retrouvaient avec des garçons qui avaient des bras et des jambes. Pour ceux qui le savent, Théo n'a pas de bras, n'a pas de jambes. Il est amputé des quatre membres. Donc forcément, quand tu es en natation et que tu n'as pas de bras, tu te retrouves avec des gens qui ont un bras, deux bras ou une jambe, deux jambes. Ah, tu vas plus vite que quelqu'un qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes.
Ouais, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens.
Ouais. Donc il s'est dit, pourquoi je vais m'entraîner pendant un an, deux fois par jour, pour ne pas faire de podium et me retrouver comme un con, en fait, à la quatrième, cinquième place, juste pour faire les jeux. Non, c'est pas lui. Il a dit, je vais faire mon propre défi. Mmh. Donc, il en a parlé avec son agent Anne, et il lui a parlé du lac Titicaca. Et c'est comme ça qu'est venu le projet du lac Titicaca. Ça a été qu'il a d'abord échangé avec Mathieu. Mathieu, qui mettait en place les TEDx, je crois, les conférences, et il devait voir Théo parce qu'il devait justement intervenir à une des conférences. Donc Mathieu se présente, il travaille sur le côté écologie auprès des entreprises, et il lui dit j'ai fait le tour du monde à vélo, j'ai fait la traversée du détroit de Gibraltar et tout. Et là, Théo lui fait, attends, stop. J'ai un truc à te proposer, c'est de faire la traversée du lac Titicaca en totale autonomie. Voilà. Et Mathieu, il n'a pas dit oui tout de suite.
Ah ouais?
En fait, parce que Mathieu, il y a autre chose qu'il est en train de préparer. Là, c'est au mois de mai. fin, je crois que c'est fin mai ou mois de mai, je sais plus. Il fait le circuit d'un mégot de cigarette dans la Seine.
Ouais.
Donc je crois qu'il descend. Non, s'il part de Paris, il remonte jusqu'à l'océan. Et il le fait ça avec sa compagne, son frère et tout, son cousin, je crois. Ils sont quatre. Et ils vont se relayer pendant toute la traversée. Et Théo lui dit bon ben, donne-moi ta réponse quand tu veux, quand tu seras prêt ou quand tu auras décidé. Donc après Mathieu, il a dit oui. Et donc forcément, il dit il faut une troisième personne et il fallait une nana. Et moi, il m'appelle au mois de juillet dernier. J'étais tranquille chez moi dans mon lit. Je reçois un appel, Théo. Oh, c'est Théo. D'abord, ça a été son agent. Donc, elle a d'abord tâté le terrain pour savoir comment ça se passe avec Malia. Donc, forcément, les premières questions, ça a été Malia, ça va? Oui, ça va très bien. Malia, tu fais du sport? Oui, je continue à faire du sport pour ma santé parce que bah, c'est important aussi. Mm-hmm. J'ai toujours fait un peu de sport depuis que j'ai eu un très, très gros lumbago. On m'a dit, Malia, t'as pas le choix et pour ta santé, tu dois faire du sport. Bon, ben, je choisis de faire du sport tranquille le matin avant d'aller au boulot. Donc, je faisais du sport. Okay. Et elle me dit, mais est-ce que tu nages un peu? Je fais non, pas du tout. Alors là, la natation, pas du tout. Alors, plus je suis loin de la piscine, mieux je me porte. Elle fait, est-ce que tu es prête à nager beaucoup? Alors, j'ai fait, Anne, c'est quoi nager beaucoup? C'est 1 heure, 2 heures, ben, 122 kilomètres. Et là, j'éclate de rire. J'ai fait 122 kilomètres. Elle fait oui, alors tu vois, je peux pas trop train de dire et tout. Et j'ai fait, mais attends, comment tu veux que je décide ou je prenne une décision? Il faut m'en dire plus. Et puis il fallait qu'elle le dise. Elle m'a raconté, donc voilà, c'est Théo, il veut faire la traversée du lac Titicaca en totale autonomie. C'est aussi pour parler sur le côté écologie aussi, hein, parce que mmh. c'est zéro déchet, pas de plastique, pour la protection des eaux du monde et tout. Donc voilà. Et j'ai fait, bon, ben, pas de souci, je vais réfléchir et je te dis, je te rappelle. D'abord, j'appelle mon ancien coach, Stéphane Lucas. Donc, je lui en parle et tout. Et je rappelle Anne derrière. J'ai fait, Anne, c'est bon, j'ai décidé, elle me fait quoi? J'ai fait, ben, c'est bon, c'est OK. Le défi avec Théo.
Ok, ça s'est fait comme ça du coup.
Ça s'est fait comme ça, exactement. En 1h30, j'avais pris ma décision et tout. Et après, on a fait un call à 3 et à 4 même, je crois qu'il y avait même Stéphane ensuite. Et Théo était comme un fou. Ouais, c'est bon. J'ai ma team et tout. Et donc après, l'été est passé et puis on a commencé à s'entraîner au mois de septembre.
D'accord, ok. Ouais. Et je veux pas faire le psy, mais pourquoi est-ce que tu as dit oui? Pourquoi est-ce que tu vois, tu disais que tu voulais plus trop nager?
Alors, c'est
que
simple.
Tu... C'est...
Non, c'est simple.
Et
c'est
là, en 1h30, tac, il y a une étincelle et on te propose un projet de dingue. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de courses. Enfin, pour moi, il y a quasiment aucune course aussi longue en natation. C'est un truc surhumain. Qu'est-ce qui fait que tu dis oui?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Plusieurs choses. Déjà, on passait une période très compliquée. C'était le début de la COVID. On venait de finir le premier confinement. Et moi, professionnellement, en ce moment, c'était très calme. En fait, je travaille dans le groupe, une société d'assurance, et je gère des loges dans des stades. Les stades avec qui on est des partenaires. Et pour tout le monde, bah, tout le monde le sait, en ce moment, les stades, c'est clos, huis clos. Donc, pour le moment, c'était très, très calme pour moi. Et j'avais besoin d'un nouveau défi, un dernier défi. Je me suis dit, je suis capable de passer ce côté où j'ai arrêté ma carrière parce que j'étais commencé à me dégoûter de mon sport. Et en plus, en fait, il y a ce côté où tellement tu regardes les trucs d'aventure à la télé, que ce soit Pékin Express, Koh-Lanta, les trucs d'aventure. J'aime bien, j'adore. Et tu dis, mais de toute façon, moi, je ne pourrais pas le faire. Alors que là, tu dis, ça, je peux le faire.
OK.
Donc, je me suis dit, bah, ça va être une aventure humaine, une aventure à trois qu'on va vivre et que je peux faire parce qu'en plus, c'est de la natation. Donc, je connais la natation. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Professionnellement, c'était très calme. J'avais envie, je me suis dit, pourquoi pas une superbe aventure de l'extrême et le vivre encore avec Théo qui se bat justement sur ce problème de classification et qui est capable de faire des choses tellement belles et tout, et montrer que personnes en situation de handicap sont capables de plein de choses. Voilà. Et en plus, sur le côté écologie, zéro déchet, fais attention aux déchets plastiques, sur le côté écologie et tout. Donc voilà, c'est pour moi, tout était aligné pour que je dise oui.
Ok. Et tu sais ce que tu as envie de te prouver, toi, en faisant un défi comme ça ? Est-ce que c'était, tu vois, est-ce que tu as parlé effectivement de souhait de se dire, mais là, je peux faire de l'aventure, je peux vivre une aventure extrême. Mais, tu vois, des fois, il y a quelque chose d'encore plus profond, tu vois, à l'intérieur de soi, qu'on a envie de se prouver ou quoi. Est-ce que, enfin, je sais pas, là, je pars un petit peu loin, tu vois, ça devient un peu philosophique, mais tu vois.
Mais c'est de savoir, est-ce qu'on est capable de faire autre chose qu'une course d'un 50, un 100 mètres, un 400 ou 1500, ou faire autre chose, mais quelque chose de l'extrême. Ouais. Sortir de ma zone de confort, en fait. C'était surtout ça, moi. La zone de confort, bah, t'as un copain, une copine qui te dit, allez, je veux faire un 25 contre toi ou un 15 mètres contre toi. Ouais, ça, tu es bon. Alors que 122 km, ça, c'est pas tous les jours qu'on va te le proposer de le faire, cette aventure.
Ouais.
Ça pouvait, on te le propose une fois dans ta vie. Donc, j'ai dit, c'est maintenant ou jamais.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu connaissais déjà Théo avant cette expérience-là ?
On s'était croisés plusieurs fois et à peu près 6 mois avant, on s'était croisés sur un événement, les Étoiles du Sport à Tignes. Ouais. On s'était croisés, ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas croisé tant que ça, mais on s'était croisés plusieurs fois dans des événements.
Ouais. Ok. Ouais, donc c'est quand même tu pars un peu à l'aveugle. Donc franchement,
oui, c'est vrai, parce que je connaissais pas les caractères des garçons. Je ne savais pas comment ça allait se passer, parce qu'on va être, on va dormir ensemble, hein. On va vivre ensemble. Et en fait, je suis super contente parce que ça se passe super bien. Ouais. Ils ont été à 20 ans, Mathieu à 25, et moi, je vais bientôt avoir 40. Donc ouais, c'est génial, puisque on s'entend super bien. On est des soutiens, en fait, les uns pour les autres. Quand il y en a un, en fait, on apprend à mieux, plus se connaître que des copains. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à juste un regard dans les yeux, le visage, comment il est, à lui dire, tu retournes pas dans l'eau. Il est hors de question que tu retournes dans l'eau, tu te reposes et tu y retourneras demain. Moi, je vais nager à ta place. Il faut qu'on soit capable de faire ça, en fait.
Ouais, bien sûr. Mais tu sais que je regardais, là, il n'y a pas très longtemps, un reportage sur les astronautes. En ce moment, je me passionne beaucoup pour l'univers des astronautes et la conquête un peu de l'espace. Et apparemment, la première source d'échec des campagnes d'astronautes qui partent sur des événements un peu longs, c'est effectivement le côté humain, quoi. C'est pas spécialement des problèmes techniques ou quoi, c'est le fait que les astronautes se déchirent entre eux et qu'au bout de 10-15 jours, vu qu'ils vivent et qu'ils font tout ensemble,
ils
portent plus, quoi. Donc, peut-être que je devrais poser la question à Théo, mais j'aimerais bien la voir sous ton prisme, tu vois. Je sais pas au quotidien comment il se débrouille, Théo, et quel est son
Théo, d'autonomie. Il se débrouille très très bien. Je crois qu'il y a deux choses, je sais qu'il n'arrive pas à faire, c'est les lacets et les boutons de chemise.
Il sait tout faire, Théo. Il sait tout faire.
Ben ouais, c'est ce qui est dingue. Hein.
Ouais.
Mais même on lui a posé la question le week-end dernier. On m'a dit, mais comment tu fais pour écrire tes textos ou taper sur l'ordinateur? Et en fait, il a amputé presque au niveau des coudes, en fait.
Ouais, bien sûr.
Et au niveau des coudes. Donc, il a l'os qui dépasse un peu, en fait, sous la chair. Et donc, il se sert de ce moignon pour taper, en fait.
C'est fou.
On lui dit, mais est-ce que tu grossis tes touches? En fait, pas du tout. Il a les mêmes touches que nous et il arrive à taper dessus, à envoyer un texto comme ça.
Ouais, c'est dingue.
Ouais.
Mais, Mais écoute, franchement, je trouve.
Il a tout appris, en fait, il a vraiment tout appris. Il a appris à manger, quoi, puisque forcément, tu t'imagines, toi, tu te vois apprendre à, avec tes coudes, prendre une fourchette et le mettre dans ta bouche.
Ouais, c'est dingue. C'est dingue.
C'est dingue.
Ouais. Ouais. J'aimerais vraiment, tu vois, passer une journée avec lui pour voir effectivement son inventivité. Comment, en fait, moi, je vois ça comme. Comme de la créativité, de l'inventivité, de l'ingéniosité aussi, parce qu'il y a, il y a une part de génie quoi, dans tout ça. Et franchement, c'est une personne qui me subjugue et je suis, enfin, en tout cas, je suis vraiment admiratif de ce que vous êtes en train de faire tous les trois et j'ai vraiment hâte de pouvoir suivre ça. Donc, si vous voulez revenir d'ailleurs, une fois que vous avez terminé et que vous voulez revenir tous les trois sur le podcast, j'espère qu'on pourra. En plus, se voir en vrai et dans le studio à Paris, ça serait vraiment super, ça serait vraiment top. En tout cas, c'est vraiment génial. Et là, aujourd'hui, peut-être, moi, j'aime bien des fois poser un peu les questions un peu logistiques, un peu d'organisation. Mmh. C'est peut-être mon côté un peu entrepreneur derrière ça. Quelles sont encore les grosses missions que vous devez valider pour faire avancer le projet? Quels sont vos challenges un petit peu du moment sur la partie organisation?
On en a plusieurs. D'abord, là, on est lancé sur une plateforme de crowdfunding pour pouvoir fabriquer notre ado. C'est sur la plateforme de I Believe in You, le projet Tiki Kaka, où grâce à un don, vous pouvez avoir un bonnet du défi, une gourde, une journée avec nous. Ou même là qui va bientôt arriver, vous pourrez donner 5 ou 10 euros, je ne sais plus quelle somme on a prévu. Vous pouvez avoir votre nom sur le radeau, sur les coques du radeau. J'ai dit que c'était important que les gens puissent pouvoir donner 5 ou 10 euros, de dire ben, je veux que ce soit le nom de ma fille, par exemple. Ça peut être un petit cadeau ou juste un geste. Le nom de ma fille qui soit sur le radeau. Donc, on va faire ça. Il y a le côté où on a fait, le week-end dernier, on était parti en stage à Tignes pour un peu apprendre sur le côté de l'apprentissage sur la survie avec Alban Michon, un explorateur polaire. Et il nous a, même nous, on s'est questionné à savoir, en fait, il me dit, vous êtes en totale autonomie, mais j'ai entendu te parler de bateau de sécurité. Et je fais oui, en fait, comme normalement, il y a le médecin, le coach, la prod. Il me fait, mais ça correspond pas du tout à le côté écologie, puisque le bateau, il va polluer, quoi. Donc, on a vraiment décidé qu'il n'allait pas avoir de bateau de sécurité, qu'on allait être seul sur le lac, et que si vraiment on a une grosse galère, on allait les appeler. Et que là, il fallait rajouter des gilets de sauvetage, et qu'il fallait qu'on fasse une formation de secourisme poussée, à savoir si on a un des trois qui s'ouvre gravement, ben, soit capable de faire des points de suture, par exemple.
Okay.
Voilà, c'est des choses comme ça où on s'est dit qu'il fallait vraiment se mettre au point pour que notre avancée sur la traversée soit vraiment bonne. On part sereinement, on serait capable de tout ce qui peut nous arriver, il y a toujours des imprévus, hein, mais tout ce qui est possible d'arriver, on soit prêt. Voilà.
Ok. Bon, c'est cool. En tout cas, je mettrai vraiment le lien pour l'appel au don dans la description du podcast pour que tous les auditeurs puissent, s'ils le souhaitent, participer. Je pense que c'est un défi qui est plein de sens, plein de valeur, et je pense que pour le coup, ça vaut vraiment la peine. Donc, quand on va raccrocher tous les deux, tu verras ma petite participation. Je ne sais pas si tu reçois des notifications. Je vais y aller.
C'est gentil.
Je vais y aller de ce pas. Et puis, je vais regarder. C'est possible déjà de demander pour avoir un nom sur le bateau? Comme ça, je peux mettre ce...
Pas encore. Ça va arriver. Ouais, je pense que dans les prochains jours, ça va arriver sur la plateforme. Ouais.
Bon, cool. Je regarderai. Je vais suivre ça et je mettrai le nom de mon fils.
C'est auprès de son prénom.
Il s'appelle Solal.
Ah, ouais. C'est joli. Très joli.
Ouais, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'autres demandes de Solal pour être sur le bateau, mais du coup, voilà, ça sera lui et On est en train de chercher aussi un défi pour lui, pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire jeune. Et on a vu là, le plus jeune garçon qui a grimpé le Kilimandjaro, il avait 7 ans et demi.
Et du coup, bien partir marcher et découvrir les curieux.
Ah, c'est un grimpeur. Alors, il a que 11 mois. Alors, marcher, c'est un peu tôt.
Ah oui,
il essaye déjà de marcher. Il est très, très en avance pour ça. Et il grimpe partout. Il voit une échelle, il grimpe. Il voit un canapé, une chaise. Il essaye de grimper une échelle.
Peut-être qu'il va prendre l'escalade, hein.
Bah peut-être. En tout cas, puis il fera ce qu'il veut. On lui fera essayer plein de choses et puis il verra ce qu'il aime, quoi. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un projet qui demande beaucoup d'énergie, il y a besoin de beaucoup de préparation.
On s'est partagé les tâches le week-end dernier. Parce qu'on s'est dit, il faut forcément avoir un maître dans chaque univers, parce que c'est important. On est à trois et on nous expliquait, quand tu pars à 10 ou à 8 ou à 5, il faut qu'il y ait, on va dire, pas forcément un chef, mais des gens qui soient responsables de chaque univers. Et on s'est dit que c'était une bonne idée pour se partager les tâches quand on sera sur le radeau. Théo sera le responsable média, on va dire, parce que le côté média, c'est comme on n'aura pas de prod sur notre radeau, on n'aura que des GoPros qui vont être un peu fixés dans la tente et une GoPro libre à la main pour celui qui sera sur le radeau pendant que les autres qui nagent. Donc il faudra penser à bien les charger, penser quand il faut les charger, parce qu'on aura aussi des panneaux solaires en toile. Pour charger les GoPro et tout ce qu'on a besoin. Moi, je ferai la logistique, donc c'est les combinaisons, rincer, faire sécher les combis, voir comment où tout est bien rangé, que ce soit la nourriture, combien de nourriture il nous reste, remplir les thermos, filtrer l'eau, parce qu'on n'aura pas des bouteilles d'eau, hein. On va filtrer l'eau. On doit bien la filtrer parce qu'il y a une partie je crois, sur le lac où l'eau est très polluée. Donc, on doit bien la filtrer et on doit la réchauffer avant de pouvoir la mettre dans le thermos pour pouvoir se faire à manger. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs. Et Mathieu, c'est la sécurité. C'est tout le côté sécurité. S'il faut voir colmatage, s'il y a un trou dans la coque, si la toile, la tente se déchire, voir si, parce qu'en fait, on a un moteur qui va nous permettre de stabiliser, un moteur solaire qui va nous permettre de stabiliser la nuit parce qu'on va pas nager la nuit. Ça aussi, il faut vérifier. C'est aussi côté médical, c'est un peu lui pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un gros souci. Donc, on s'est vraiment partagé les tâches. Et je pense que c'est un détail qu'on avait complètement, on n'avait pas pensé du tout.
Le fait que vous partiez effectivement sans avoir un bateau d'assistance pas loin, ça fait que vous devez tous mettre.
Maintenant, indépendant.
Exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Je trouve ça me fait hyper plaisir de pouvoir échanger avec toi sur le sujet parce que c'est un très très beau projet. Et puis là, on a pu rentrer un peu dans le détail, donc ça permet aussi, je pense, aux auditeurs de rentrer un petit peu dans la complexité de l'organisation d'un défi comme celui-là. Et c'est aussi ce qui donne envie, tu vois, de participer, de le suivre, tu vois, quand on connaît toute la complexité qu'il y a derrière et tout l'engagement qu'il y a de la part des athlètes. Et alors maintenant, vous n'êtes plus des athlètes, vous êtes des aventuriers, hein, c'est vous changez de statut. Mais
moi, j'aime bien.
Mais on voit à quel point c'est compliqué, quoi. Et peut-être pour terminer un peu sur le sujet du point de vue sportif. Moi, je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu t'es remis à l'entraînement, parce que tu l'as dit, tu voulais plus spécialement nager. J'avais même compris qu'à la fin de ta carrière, c'était quelque chose que il y avait peut-être une certaine forme de lassitude ou
complètement, mais dégoût même, hein, tu peux le dire, hein.
J'osais pas le dire parce que je sais pas si c'était le bon moment.
J'hésite pas, mais parce que c'est ce que j'ai ressenti avant que j'arrête, c'était ça. J'ai commencé à me dégoûter de mon sport et comment je fais pour me dégoûter de mon sport? J'ai commencé à 6 ans les compètes et là j'avais 27 quand j'ai arrêté. comment, non, c'est pas possible. Tu fais tant d'années de natation, un sport que t'as aimé, qui t'a fait voyager, qui t'a fait rencontrer du monde, qui, non, en fait, c'était le signe d'arrêter la carrière. C'était le signe. Donc, c'est pas, je suis passée par là. Et pour répondre à ta question, comment on fait pour s'y remettre, ben, j'ai la chance où c'est Stéphane Leca qui m'a entraînée et qui m'entraîne là pour le défi. Donc il savait, je lui ai dit, on va commencer doucement. Il fait oui.
Pas trop vite, Stéphane. Tu reprends oui, pas quand même avec Aurélie ou.
Non, on a commencé doucement. Fait, ouais. Ah oui, on a commencé doucement parce qu'en fait, premiers entraînements. Alors, le week-end avant que je commence vraiment les entraînements, on a fait une démonstration au club de la Gardère avec Théo, aux jeunes pour. Bon, c'était un peu la fête de la fin d'été et la rentrée. Donc, c'était, je crois que c'était le moment où ils appellent ça la journée 2024 parce que bah, soit en famille, soit en individuel, tu dois faire 2024 mètres. D'accord. Et donc, à la fin, on fait une démonstration avec Théo. Et là, je me suis dit, oh, quelle catastrophe. Oh là là, on n'aurait même pas dit que j'étais nageuse de haut niveau. Théo qui nageait plus vite que moi, j'avais pas de sensation, j'avais l'impression d'être une baleine. C'était plus le petit poisson rouge qui se faufile. Là, j'avais plus rien. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir été nageuse. Et c'est très dur. C'est très, très dur. Après, j'ai repris les entraînements tranquillement, tout doucement. Et c'est vrai que, en fait, ma tête, elle était prête pour reprendre les entraînements. Mais mes bras, ils étaient pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Je disais à ma tête, elle était prête, mais les bras, ils passaient pas. Les bras, toute la force que je pouvais mettre dans les appuis, ça passait à travers et tout. C'était horrible.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça, après, j'ai demandé quand même de faire un peu de muscu parce que bah, ça me donnait un peu plus de sensations. Ça. J'ai eu un peu plus de sensations au bout d'un. Un mois et demi, deux mois.
Ok. Ouais, deux ça a commencé mois, à revenir.
Ouais, ça a commencé à venir. Deux mois. Okay. Ouais. Heureusement.
Et par rapport au froid, peut-être, et à l'eau libre, y a un changement par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment un nouveau défi pour toi de découvrir
le froid,
pour moi, c'est
pas.
Notre discipline, quoi. Mais...
Le froid, au début. De voir le faire, ça me faisait pas peur. Certes, il fallait s'entraîner, il fallait faire des douches froides comme toi tu le fais. Ben moi je le faisais aussi hein.
OK.
J'en faisais beaucoup pendant ma carrière.
Ouais.
Parce que ben faut savoir que ben les kinés, il y a pas beaucoup de kinés, il y a 2 ou 3 kinés des fois, tout le monde ne peut pas passer, donc je me disais ben les bains froids c'était très bien. Ça me permettait, certes, c'est pas écolo, mais ça me permettait de récupérer assez vite. Et donc là, c'était pareil. Quand l'hiver est arrivé, ben douche froide. J'ai pas de baignoire, j'ai douche. Douche froide à la fin de ma douche. Une fois que j'ai fini, je fais une minute. Là, je fais 15 secondes. Hein. Moi, je fais pas 3 minutes. Hein. Désolée.
Ouais, franchement, si tu peux faire 15 secondes, tu peux faire une minute.
Ouais, je faisais 15 secondes déjà.
Le choc thermique.
Et ensuite. Arrivé le deuxième confinement, je l'ai fait chez Stéphane, justement le coach, parce que ben il fallait absolument que je continue à m'entraîner, sinon j'allais tout perdre. Et comme un entraînement sur deux se faisait dans l'Oise, il habite devant l'Oise, et l'eau était à 6 degrés.
D'accord. Ouais.
Là, j'avais certes une combinaison des gants et des chaussons, mais tu le sens quand même, hein, parce qu'au niveau du visage.
Ouais.
Ça rigole pas. Donc, je me suis habituée à l'eau froide et depuis, ça passe très, très bien.
C'est vrai? Ok.
Ouais, ça passe très, très bien. Ben, le week-end dernier, on était à Tignes, le stage, on a appris tellement de choses. Le stage de Tignes, on a appris la méthode Wim Hof.
Ouais, ok, d'accord. Le fameux gourou du froid.
Exactement. Donc, okay. Leonardo, qui est un spécialiste, qui est formateur en France, est venu pour nous apprendre tout le côté de la respiration et comment faire pour se préparer à une immersion dans l'eau froide. Là, on devait là. Au premier jour, on l'avait fait en combi, nager dans l'eau froide en combi. Et là, je crois que c'était dimanche, on l'a fait en maillot. Donc, okay. C'était une immersion à 0 degré en maillot de bain. D'accord. Dans 1 minute 30, on l'a fait.
Ok.
Ouais, donc, ça, on commence vraiment à s'habituer. Ouais.
Ok, bon, c'est génial. Et ça, en plus, ça montre que le froid, c'est très psychologique, quoi. Une fois que tu as passé un peu cette barrière, tu peux la repousser, quoi. Et ça vous fait pas peur de. Tu vois, là, tu as parlé de 15 secondes de douche froide, de 1 minute dans de l'eau très, très froide, d'augmenter un petit peu les durées et tout, mais ça vous fait pas peur de le gap entre quelques minutes et versus 10 jours de natation?
Non, parce qu'en fait, on a de la chance, on a un super programme annuel, 14 mois de préparation, où tous les 15 jours, on part dans une base nautique à Compiègne. À côté de chez Stéphane, on a la chance d'avoir une super base nautique qui nous met à disposition cette base nautique pour nous entraîner à l'eau froide. Okay. Et donc on a déjà fait 2 fois 1 heure. Ouais. On a fait 1 heure dans l'eau d'entraînement à tourner pendant. On a tourné, c'était 4 tours, ça fait à peu près 4 tours en fait, puisque il y a un petit îlot au milieu, donc ça nous fait faire 4 tours. On s'est changé, on avait mis la tente aussi. Une tente pour pouvoir récupérer et pouvoir manger. Donc, on était vraiment un peu dans les conditions de la traversée. On s'est posé. On a commencé à 11h midi, on a fini de nager. On a mangé midi et demi, 13h. Et 14h30, on est retourné dans l'eau. Okay. C'était très court pour moi parce que je n'avais pas encore digéré. Et la première chose quand tu commences à faire une activité sportive juste après avoir mangé, c'est… T'as qu'une envie, c'est un peu de vomir, quoi. Et pour moi, au moins les 10 premières minutes, ça a été un peu ça. J'avais envie de vomir. J'ai dit, c'est trop court, c'est pas bon. Il faut pas refaire ça parce que on n'est pas bien, quoi. Certes, ça peut être difficile de retourner dans une eau froide, mais en plus avoir envie de vomir parce qu'on est enchaîné, c'est pas bon. Donc, on a réussi à faire 1 heure encore. C'est passé mieux. La deuxième heure est passée mieux que la première. Mais ça a été difficile niveau pour des pieds pour Mathieu parce qu'il a eu froid à la première heure au niveau des pieds et qu'il n'avait toujours pas retrouvé ses sensations quand on est retourné dans l'eau. Donc, il a eu du mal à se réchauffer au niveau des pieds. Mais ça, en fait, ça dépend de comment tu te sens. Parce que moi, je me rappelle, il y a eu un entraînement où ça a été moi… J'arrivais plus à marcher en fait en sortant de l'entraînement dans cette eau dans cette eau froide. Donc c'est les coachs qui m'ont dû me porter, m'aider à marcher pour pouvoir aller me réchauffer et tout. Donc ça en fait ça dépend vraiment de ta forme en fait. Et donc pour le moment franchement ça nous fait pas peur les 122 puisque on est vraiment sur une dynamique où on monte en kilométrage et en heures, on va dire, puisqu'on parle plus trop de kilométrage en préparant ce défi. On fait en heures. On fait 1 heure non-stop à l'entraînement. J'ai fait 2 heures non-stop le mois dernier où j'ai fait 8 kilomètres. Vendredi prochain, on fait 2 heures non-stop. Donc, tu vois, c'est une préparation qui va vraiment progressivement et auquel le corps et la tête ont le temps de se préparer.
Ouais, ok. Bon, c'est passionnant, franchement, tel que tu le racontes là. On voit que la route est encore longue, mais qu'en même temps, vous êtes ultra déterminé et que vous progressez à une vitesse folle, quoi, et que vous êtes sur une super bonne dynamique. Donc, ça donne trop envie. On a presque l'impression que c'est facile, tu vois, à t'écouter.
Ça donne l'impression toujours.
Ouais, c'est toujours comme ça, tu sais, de vue de l'extérieur. Mais en tout cas, ouais, ça donne vraiment envie. C'est vraiment… moi, je me rends compte à quel point c'est un défi hyper ambitieux. Et effectivement, le froid, comme tu l'as dit, ça dépend, ça te prend tellement d'énergie, je trouve, que effectivement, si un jour t'es pas dans ton assiette, si un jour il y a un petit truc de travers, tu souffres beaucoup plus et c'est compliqué. Et pour avoir interviewé quelques personnes qui avaient traversé la Manche, ils me disaient que sur les 10, 12, 15 heures de traversée, il y a forcément des moments où tu es obligé en fait de plus t'écouter et de plus de ranger un peu le cerveau et pour avancer, parce qu'en fait le corps t'envoie tellement de signaux un peu négatifs ou un peu compliqués à gérer que tu es obligé en fait de mettre tout ça de côté, mais que si tu fais un peu abstraction de ça, en fait tu peux tenir très longtemps et y arriver, quoi. Donc c'est En tout cas, c'est passionnant. En tout cas, merci infiniment pour tous ces détails et nous partager aussi les petits moments de difficulté, les petits moments de joie. C'est ça qui met de l'humain là-dedans et je trouve ça vraiment vraiment chouette. L'heure tourne beaucoup et j'ai pas envie de te prendre tout ton programme, et je sais que tu as un programme bien chargé. Peut-être pour conclure un petit peu cet échange, j'avais quelques petites questions un petit peu simples ou un petit peu rigolotes. Est-ce que je peux te les poser?
Bien sûr.
La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi?
Une bonne journée pour moi. Il peut y avoir plusieurs, pour moi, définitions d'une bonne journée. Une bonne journée, c'est que tu te réveilles tranquille, tu te fais un bon petit déj, tu te reposes dans le lit, tu remates un film, tu te relèves pour prendre un petit chocolat chaud avec des petits biscuits, tu retournes au lit. Ça peut être une bonne journée. Une bonne journée, ça peut être aussi, je me lève, je suis à fond. Tranquillement, je regarde mes mails, le truc du boulot, et puis je me prépare, je vais à l'entraînement. L'entraînement se passe bien, je déjeune tranquille, je regarde un peu la télé ou je bosse un peu après, et puis voilà, c'est un peu le goûter. Voilà, c'est un peu ça. C'est aussi ça une bonne journée pour moi. Et pour moi, il y a plusieurs définitions de bonne journée. C'est quand au moins quand il n'y a pas de tracas et il n'y a pas d'imprévu négatif. Pour moi, c'est une bonne journée. Je suis pas compliquée pour une bonne journée pour moi.
Ça marche. Mais un peu de routine et de normalité, ça fait aussi.
Ah ouais,
bien.
Pour moi,
c'est
apaisant. Une bonne journée. Comme aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne journée. Je me suis levée, je suis allée à l'entraînement, j'ai déjeuné, j'ai bossé, et puis voilà, il y a le podcast là avec toi. Et puis voilà, c'est le week-end qui arrive. Pour moi, c'est une bonne journée.
Ah bah grave, moi aussi, j'ai passé une super bonne journée, tu vois. Donc ça tombe bien. Et il y a une question que j'aime bien poser qui est… Alors, elle est un peu… parfois, elle est un peu… C'est difficile d'y répondre. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que tu te vois dans 10 ans. Est-ce que t'as une idée de où est-ce que tu veux être?
J'ai dit… Oh, putain, c'est long, disons. Putain, c'est... Ouh, une rémesse. Pour moi, j'ai aucune idée. Pourquoi pas au soleil, les pieds dans le sable, ouais. Mais aucune idée, franchement.
Tu te laisses porter?
Mais toujours. Ouais.
Les opportunités avant tout, t'as raison. Il faut,
exact.
Faut être...
Ça a été toujours comme ça. Pour moi, ça a été des rencontres où... et qui ont fait que j'ai pu avancer professionnellement ou personnellement. Ça a été des rencontres et je me suis souvent laissé porter, ouais.
Ok. Et en parlant de rencontres, est-ce que il y a une rencontre dont tu te souviens, qui a un petit peu changé ta vie ou qui a eu un impact dans ta carrière ou dans ta vie que tu pourrais nous raconter? J'imagine qu'il y en a eu plein, mais...
Ben, c'est ça le problème, c'est que j'en ai eu plein, moi, dans ma vie. Ouais. C'est que les gens que j'avais l'habitude de, enfin, que je me suis jamais dit que j'allais pouvoir les rencontrer ou jamais, en fait, je les ai rencontrés. Est-ce que il y en a peut-être que je n'ai pas rencontré, certes, mais de mon milieu, je les ai rencontrés. J'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer. Ça a été Marie-Josée Pérec, j'ai pu la rencontrer. Ben, je la connais très bien maintenant, c'est une amie, Marie-Jo. Et ça, je me dis, est-ce que le sport aurait pu faire que ça arrive? Je pense pas. Y a qui d'autre? Pour moi, en fait, ce sont devenus des amis. C'est même plus devenu. C'était pas des gens que. C'était des gens avant que je regardais à la télé et que Frédéric Michalak, Yannick Tionga, Thierry Dussautoir, tous mes potes du rugby. Avant, je regardais à la télé. C'est en Guyane. Je regardais un peu le rugby, et encore quand il y avait le rugby, des fois Et en fait, une fois que j'ai un peu, tu connais un peu le rugby, tu regardes et tu vois, et les gars, ben après, ben ce sont devenus tes potes. Donc pour moi, c'est, en fait, c'est ça, hein, c'est aussi ça le sport, c'est comme on disait, c'était les rencontres.
Ouais.
Et en fait, il y en a tellement que j'ai rencontré et que je me suis dit, si j'avais pas fait du sport, je les aurais jamais rencontrés.
Ouais.
Et ça, c'est aussi magique pour moi. C'est aussi magique et fantastique. Il y en a plein que j'aurais jamais pu rencontrer. Pour moi, ce sont devenus des amis. Donc, je te fais une liste. Je te fais une liste pour pouvoir.
Fais attention. Après, je vais te recruter en tant qu'agent pour le podcast, hein, pour avoir des mises. pour travailler avec Nadège d'ailleurs, qui nous a mis en relation. J'ai oublié de la citer d'ailleurs en début de.
Nadège, elle est adorable, Nadège.
Bah oui, c'est la meilleure.
Les gens du hand aussi, les potes du hand, ouais. Pareil. Des gens que j'ai rencontrés au jeu. Les garçons du hand, les experts, je les ai rencontrés au jeu. C'était à Tokyo, parce qu'en fait, les Français, la plupart du temps, tu vois, sur le dos France, tu vas manger avec eux, tu vas pas aller manger avec des Américains ou je sais pas quoi, tu vas manger avec des Français. Et c'était la table des handballeurs, donc je me suis posée.
Ok.
Et donc, il y a un échange, forcément, alors vous, comment ça se passe? Et donc, toi, ils te demandent comment ça se passe. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris j'ai fait la connaissance des experts. Que ce soit, au début c'était Joël Abati, il y a eu Nico, il y a aussi Luc Abalo, il y a aussi Daniel Narcisse, Thierry Omeyer. Je les ai tous rencontrés comme ça en fait.
Ouais. C'est culot quoi. Tu t'es planté à leur table.
Mais c'est pas forcément culot, c'est que il y a ce moment, on a de la chance où c'est un moment olympique, c'est un moment des Jeux où c'est très très convivial, tout le monde est là pour aussi échanger, parce qu'on n'est pas là non plus à rester dans une bulle, parce qu'on fait les jeux, hein. On est là aussi pour encourager les autres sportifs français. Donc voilà, je vois des Français, je suis toute seule, je me pose avec d'autres Français. Et puis il y a des questions, il y a des échanges, et c'est comme ça qu'on apprend à connaître les uns les autres. Ouais. Mais pour moi, ça a toujours été des rencontres, et des rencontres spontanées.
Ok. Bon, c'est beau, mais je trouve que tu as une capacité à attirer les bonnes personnes vers toi. J'ai l'impression que
j'ai une étoile, on m'a dit.
ouais, peut-être, tu vois, il y a peut-être de l'inné et tout, mais il y a aussi beaucoup d'acquis, je trouve. Et moi, je suis de plus en plus admiratif effectivement de ces personnalités, et je trouve que tu en fais partie, qu'on cette capacité à être un peu solaire et de manière très naturelle à attirer des bonnes ondes, tu vois, autour d'eux. Et donc, je suis très, très admiratif de tout ça.
Je pense que le fait d'être solaire, ça peut attirer que les ondes positives.
C'est vrai.
Je pense que c'est aussi ça.
On récolte que ce qu'on sème. Hein.
Exactement.
Donc voilà. Super. Il y a une des autres questions que j'aime bien poser, c'est de savoir, est-ce que tu as une petite méthode ou une petite routine quand tu as une perte de motivation ou que tu as des pensées un peu négatives ou que tu es un petit peu, un peu irrité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour te remettre de bonne humeur?
Ouais. Alors d'abord, je me calme.
On respire.
Je prends du temps. Ouais, parce que je pense que s'énerver ou aller au spontané comme ça, quand tu es énervé, c'est pas bon. Il faut d'abord se calmer et réfléchir et voir le côté positif, pas le côté négatif. Donc, je me calme d'abord. Et puis je laisse le temps passer. Et puis après, là, je me dis que sur le côté positif, il faudrait que soit je réponds gentiment, je réponds calmement, je vais plus sur le côté positif que sur le côté négatif parce que c'est pas très bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que j'ai une routine autre? Ah oui, c'est même si j'ai pas envie, par exemple, le matin, je dois aller à l'entraînement le matin, on va dire. Si j'ai un entraînement à 7h du matin, je dois m'entraîner que j'ai pas envie. Ah ben, je dis, j'y vais et puis on verra.
Ouais.
Parce que ça arrive souvent, ce genre de choses. Hein. Après, ça peut arriver même quand tu te dis, j'ai pas envie d'aller au boulot. Et puis en fait, tu vas au boulot, tu passes une super journée. Il y a un pot avec les copains, avec les copines, et en fait, le boulot, ça se passe super bien. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que je me suis toujours dit, il faut y aller. Parce que je suis passée par là quand j'avais, à la fin de ma carrière, j'avais pas, des fois, il y avait souvent que j'avais pas envie d'aller à l'entraînement. Et en fait, quand j'y allais, ça se passait super bien. Je m'en sentais super bien. Je faisais des temps super. Et alors que j'avais pas envie, je dis, franchement, en fait, que j'ai été à l'entraînement. Ça s'est bien, passé. Et au moins, voilà, j'ai pas regretté. Et je me suis dit qu'à la fin, il fallait que je m'en serve. Quand j'ai la petite routine où je me dis, ça va pas. Là, si j'ai pas envie d'entraîner, j'y vais et puis je vois comment ça se passe. Si je suis invitée, bon, là, il n'y a pas d'événement, mais je suis invitée à un événement, je suis fatiguée, j'ai une journée difficile et le soir, j'ai un événement, je dis, j'y vais, même si c'est pour rester une demi-heure, mais j'y vais. Et en fait, des moments où je dis, je vais rester une demi-heure, en fait, je suis restée jusqu'au bout, quoi. Parce que les gens qui étaient là, eux, ils avaient sur le côté positif, ils avaient envie, ils étaient solaires et moi, pas. Et quand je suis arrivée, ils m'ont transmis ce côté solaire et ça fait que bah, je suis rentrée dans le côté positif. En fait, c'est un peu ça. Je me dis, il faut y aller, il faut oser, même quand tu n'as pas envie.
Ouais, ok. Ben, je trouve que c'est un très bon conseil, tu vois, en tout cas, un très bon mantra, tu vois, de vie, parce que moi, je le vis très souvent, tu vois. Et que ce soit avant un entraînement ou avant une journée, ou des fois, je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et en fait, je sais pas, soit je mets le cerveau de côté ou quoi, je me dis, mais il peut que se passer des bonnes choses, en fait. Tu vois, tu peux pas, quand t'es déjà dans un état d'esprit un peu négatif, des fois, moi, je me dis, en fait, ça peut pas être pire. Donc, que j'y aille ou que j'y aille pas, ça va rien, enfin, je me sens pas bien. Donc, voilà. Et là, si je fais rien, je vais pas bouger, je vais pas changer d'état d'esprit. Alors que si jamais je me bouge et effectivement je vais à cet événement où je vais devoir un peu parler à des gens, me forcer un petit peu, eh ben, la meilleure chose qui peut m'arriver, c'est de complètement changer d'état d'esprit et d'humeur, quoi. Donc ça marche plutôt bien. Mais écoute, super, super. Franchement, c'est un très bon conseil. J'accélère un tout petit peu là pour les toutes dernières. Il en reste trois. La première, c'est de savoir un petit peu s'il y a un livre ou un film qui t'a marqué récemment et que tu recommandes de temps en temps autour de toi.
Un livre, il n'y a pas, parce que j'ai même pendant les trucs de confinement ou quoi que ce soit, j'ai même pas eu le temps. Même pendant le confinement, j'étais vachement prise. Or, je me posais pas assez, justement. Donc, on m'a dit, j'ai même une copine qui m'a dit, Malia, repose-toi parce que on va se déconfiner et tu vas te fatiguer. Alors qu'on était en confinement. Donc, j'ai même pas eu le temps de lire. Film. Est-ce que j'ai vraiment un film? Alors, assez souvent, je regarde tellement. Est-ce que j'en ai eu un?
Ah, bah, si tu regardes beaucoup, tu peux me citer ton film préféré, alors, ton film historique.
J'ai pas de film préféré. C'est ça le truc. J'ai pas de film qui m'a particulièrement. Est-ce que j'en ai non,
bon. Et sinon, si je te pose la question du dernier que tu as vu, est-ce que tu te souviens?
Le dernier que j'ai vu, oh là là, c'était sur Netflix.
Oula, si c'était une production Netflix, attention, ça sent le navet. Hein.
Il y en a beaucoup. Hein. Attends, il faut que je m'en rappelle. Parce que je regarde beaucoup plus de séries ou de trucs télé-réalité qui ne sont pas montrés, mais qui sont montrés sur Netflix que. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, mais je n'ai pas fini le film, parce que je regarde des séries et des films. J'aime pas trop le film, il est pas bien, il n'est pas bon. Mais je ne me rappelle même plus du nom.
Moi, bon, c'est pas grave, mais.
Ouais, parce que tu vois, j'ai pas du tout aimé et je me suis dit, il faut quand même que je veux le finir. Ah, jamais. Attends, c'était quoi? Ah, c'est un truc avec celle qui a joué dans Grey's Anatomy. Mais
oh là là. Bon, au pire c'est
pas un truc de très très bonnes, de meilleurs amis en fait qui vivent deux carrières différentes et voilà, c'est celui-là que je suis en train de regarder en fait.
OK,
que
j'ai pas fini. Bon bah au pire je te demanderai en privé des petits conseils de série
je te donnerai parce que je retiens jamais les titres.
Mais on vient de me tu vois, j'ai pendant très 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 longtemps, j'ai refusé d'avoir un compte Netflix et à force qu'on me fasse des qu'on me dise il faut que tu regardes The Last Dance avec Michael Jordan, il faut que tu regardes Formula One, il faut que tu regardes la joueuse d'échecs, il faut que tu regardes tout ça. Et je me suis dit bon, il y avait tellement de bons contenus. Là, j'ai une très bonne amie qui m'a prêté un compte pendant 2 mois. Donc là, je vais faire 2 mois de rattrapage intensif.
Prépare-toi, vas-y. Hein.
Voilà, donc je vais avoir de quoi regarder. Je vais avoir de quoi regarder.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé The Last Dance. Après, ouais. Je sais pas forcément, c'est pas ce qui est vrai, ce qui est faux des fois, des moments, parce que les gens ne le prêtent. Ceux qui l'ont vécu ne le voyaient pas de cette façon, mais ça a été très 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 bien fait, je trouve. Franchement, ouais. Chapeau, ouais. Parce qu'en plus, moi, c'était, je sais pas si c'était la même génération que moi, mais nous, en Guyane, nous, on se réveillait à 4 heures du matin pour regarder Michael Jordan qui jouait en NBA.
C'est
un truc de dingue. Pour moi, c'est Michael Jordan encore. C'est la personnalité que j'aurais bien aimé rencontrer, Michael Jordan. Ça, c'est,
il est encore temps, tu sais pas. Peut-être que sur un événement, il viendra et tout.
Je me ferme pas des portes parce que je me dis, en plus j'ai un pote qui organise justement les voyages NBA, donc je me dis, ah, les voyages NBA, je vais y aller.
Ah bah ouais. Mais j'ai vu que tu t'entendais bien avec Boris Diaw et Ronny Turia, oui. D'ailleurs, donc tu as des connexions quand même.
Oui, oui, oui. Non, oui, mais c'est pas avec eux que j'irai, hein. eux connaissent tout le monde, donc. Non, oui, ouais, mais c'est vrai que déjà je devais aller l'an dernier et j'ai pas été. Mais c'est vrai avec que ce soit avec Boris ou Ronny. De toute façon, Ronny il m'a dit si tu y vas, dis-moi, je te ferai visiter un tel. Je fais plus. c'est sûr. Mais ce sont des superbes ambassadeurs, donc oui, c'est sûr. C'est toujours mieux d'aller avec des potes que avec des personnes que tu connais pas, mais ouais, j'ai la chance où Ronny et Boris on est à l'INSEP en même temps. Je crois que Boris est parti juste au moment où j'arrivais, mais Ronny on s'est vu sa dernière année, c'était l'année où je suis arrivée.
D'accord, ok, ouais, tout s'explique. Ok,
ouais.
Très chouette. Et ben écoute, puisqu'on parle de personnes et de personnalités inspirantes autour de toi, la toute dernière question, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais sauf que là, c'est un passage de micro. C'était de savoir quels étaient les athlètes à qui tu aimerais que tu aimerais écouter sur une conversation telle que celle-ci, et que tu penses que ça pourrait être des personnes intéressantes pour ce type d'échange. Il peut y en avoir plusieurs, ça peut être des gens que tu connais,
Il y en a deux particulièrement avec des femmes. Alors, c'est Mélina Robert-Méchon.
Ok.
Carrière incroyable, 5 jeux, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. 2 enfants. Et c'est souvent, il y en a qui ne connaissent pas ce côté ou comment une sportive de haut niveau, maman, et comment elle fait pour être organisée, comment ça se passe dans sa vie en fait de mère et de femme, en fait son parcours il est incroyable aussi, donc je pense que j'ai pensé très très fort à Mélina, et j'ai pensé à Sarah aussi dans la boxe, Sarah Wamou. Donc c'est une entrepreneuse, donc forcément elle a été aussi médaillée olympique, elle a 2 enfants, elle attend son 3e là, et donc c'est pour moi, c'est 2 parcours très forts. Pour une femme, c'est 2 beaux exemples.
Ouais, mais t'as raison. Et merci de mentionner 2 femmes d'ailleurs. J'essaye de tenir une parité parfaite sur le podcast, mais dans le sport, c'est pas toujours évident. Mais je m'y tiens et j'y arrive. Et je sais que Nadège est en train de me faire une petite surprise avec Mélina et Sarah, donc faut que je sois un peu patient.
Bah oui, elle va passer par Caroline, c'est leur agent, donc elles ont le même agent, donc elle est adorable, Caroline. Donc si tu l'as, tu l'embrasses de ma part. Mais oui. Mais elles sont 2 nanas, 2 femmes formidables, franchement formidables. Et je pense que ça peut être de beaux exemples, pas seulement pour des sportives, mais aussi pour des femmes de la vie de tous les jours au niveau professionnel. Et la femme mère de foyer ou femme qui travaille, voilà. C'est, je pense que c'est…
C'est des modèles pour tout le monde.
Des modèles, ouais. De beaux modèles, on a de la chance d'avoir de beaux modèles en cette période et en ce moment, en temps moderne, enfin, en cette période de 2020-2021. Ouais.
Ben écoute, merci infiniment pour ces deux recommandations, parce que je sais que elles sont déjà dans ma dream list, tu vois.
Et ça donne dans la to-do à faire.
Ouais,
à faire.
Exactement. Et maintenant, il faut que ça passe dans ma to-do. Mais là, c'est entre de bonnes voies. Je vais pas vendre la mèche avant d'avoir allumé la lunette. Mais
c'est vrai.
Mais ça se fera un jour, c'est sûr. Et puis comme moi, je me vois bien. Comme un athlète de haut niveau faire ça pendant 10 ans, et que je vois les choses à long terme, je me dis que nos chemins se croiseront, et là ça sera peut-être pour bientôt, donc croise les doigts pour moi. Voilà, moi j'ai croisé
les
doigts.
Je croise les doigts pour toi.
Et écoute Malia, merci infiniment, parce que c'était cette conversation, c'était un petit rayon de soleil. Là je regarde par la fenêtre, je vois que le soleil se couche doucement, et moi j'ai passé un super moment en ta compagnie. J'ai beaucoup rigolé, tu vois, même sans se voir, t'as réussi à me transmettre des énergies ultra positives et à me donner plein de courage et plein de motivation pour ma fin de journée et pour même, j'espère, pour les jours à venir, pour les semaines à venir. Donc, merci infiniment, parce que, encore une fois, je te le disais, on m'a dit beaucoup, beaucoup de bien de toi, et ça s'est confirmé. T'étais vraiment une personnalité géniale. Donc, merci pour tout, quoi. Merci pour ta disponibilité. Qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs de faire, pour ceux qui sont encore là? Qu'est-ce qu'on leur dit de faire? Où est-ce qu'on te suit?
Quelles sont les actions là? On me suit sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, peu importe. De toute façon, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. C'est souvent, la plupart du temps, même s'ils me posent des questions, j'essaye de répondre. Maintenant, si c'est possible, si vous avez envie, si vous avez envie de faire un beau geste pour cette année, certes compliquée, venez sur I Believe in You. Je pense que Barthélémy va nous le mettre, va vous le mettre dans le podcast.
Je vous mettrai le lien.
Pour pouvoir soutenir, et c'est pas seulement soutenir, mais on veut pour cette belle fabrication du radeau. Ce radeau, il va pas être construit du début jusqu'à la fin. C'est un radeau qu'on va récupérer, certes, qui va être, on va utiliser des produits recyclés et qui va être laissé aussi là-bas. On va pas le ramener en France. On va le laisser là-bas pour une ONG, pour qu'ils puissent s'en servir et tout. Donc voilà. On veut pas faire des choses à moitié. On veut vraiment que le projet soit du début jusqu'à la fin, et que vous puissiez aussi participer. Si vous avez envie de faire un beau geste, c'est avec grand plaisir. Et en plus, si vous pouvez, vous pouvez même faire une journée VIP. Allez sur I Believe in You, venir faire une journée VIP avec nous. C'est quoi une journée VIP? C'est assister à un entraînement, ou même faire un entraînement avec nous, venir déjeuner avec nous et faire un échange si vous avez des questions et tout. Donc, n'hésitez pas, venez participer, et je vous remercie d'avance.
Voilà, ça donne envie, et ça met l'eau à la bouche pour ce défi. Écoute, merci encore Malia, je te dis au revoir, je te dis coucou. C'était vraiment un super moment, et écoute, je te dis, moi aussi j'essaye de te transmettre toutes mes bonnes ondes pour ce défi, pour cette journée, et voilà, merci encore. Je ressens beaucoup de gratitude tout de suite, donc et c'était vraiment un plaisir de partager ce moment-là avec toi.
Merci en tout cas, et désolé pour le retard.
T'inquiète, il n'y a pas de problème. C'est trop bien. Salut, à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.